Est-ce qu'on peut allumer sur les couloirs, là, s'il vous plaît?
Dans ce témoignage, j'ai beaucoup été touchée par cette vérité qui est venue comme... En fait, ça m'a frappée aux yeux, ce qui est déjà vrai. C'est que Jésus, Dieu est souverain, en fait. Et j'ai compris par là que ce même Dieu qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai », c'est ce même-là qui n'a pas souvent besoin de notre avis, en fait, pour agir dans notre vie. Quand ce monsieur, il est tombé sous cette balle, sa femme n'était pas encore là. Elle n'avait pas encore même dit Jésus. Et lui également, il ne connaissait pas Jésus. Mais il est dit qu'il était dans ce lieu froid, dans ce lieu ténébreux-là. Et il a vu cette lumière-là le sortir de là. Et moi, c'est cette souveraineté de Dieu-là qui m'a frappée, franchement.
Comment comprendre la souveraineté de Dieu? Comment l'expliquer? Parce que la souveraineté de Dieu, lorsqu'on la regarde sur un point de vue humain, on a le sentiment qu'il y a une forme d'injustice. Là, ils étaient deux touchés par la balle, par une balle, un qui meurt, l'autre qui meurt encore d'une certaine manière, mais que Dieu va chercher jusqu'en enfer. Comment comprendre ça? Si tu peux répondre, oui, sinon Marie-Paul veut répondre.
Ben, moi, je pense que Matthieu, il était appelé par le Seigneur, qui n'était pas conscient, et c'est peut-être pour ça que le Seigneur l'a sauvé. Peut-être que l'autre, celui qui est décédé, mais le Seigneur savait il l'aurait jamais servi.
D'accord.
Je ne sais pas si ça répond pleinement à ça, mais ça me rappelle le passage dans Jérémie. Je crois Jérémie 29, verset 11, où il dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Et dans un autre passage encore dans Jérémie qui m'échappe, il dit que je te connaissais avant même, comment on
Que tu
appelle
sois
ça, que
formé
tu
dans
ne
le
sois
Seigneur.
formé dans le sein de ta mère. Donc, quelque part, je lui ai dit que même une personne peut être païenne comme elle veut, mais je pense que depuis le départ, Dieu, il a déjà écrit ses projets pour tout un chacun, et il sait qui sera sauvé, il sait qui ne le sera pas. Donc je
D'accord.
pense aussi que sa souveraineté s'exprime par là également, par le fait de savoir anticiper les choses, de connaître les choses avant même qu'elles ne prennent vie dans notre existence.
C'est important d'avoir un regard clair sur la question de la souveraineté de Dieu parce que nous marchons avec lui. Et comme nous ne maîtrisons pas tout ce qui se produit dans notre vie, lorsqu'on n'accepte pas forcément la souveraineté de Dieu, c'est ce qui amène l'homme à la rébellion.
Sinon, moi, je voulais juste dire, c'est vrai que Dieu sait certainement dans. C'est le cœur de chacun, savoir celui qui est disposé à. C'est l'accepter ou pas disposé. D'où, en fait, je sais pas, il intervient. Je pense que Dieu ne nous impose pas. Dieu ne s'impose pas à nous, sachant qu'il a mis en chacun, je sais pas, une parcelle d'éternité, en fait. Je sais pas, il a mis en nous quelque chose qui doit nous emmener. Comment dire, à l'accepter ou pas, vu déjà sa création, je pense que Dieu ne nous force pas, il s'impose pas à nous, en fait, il nous sollicite, et après on l'accepte ou pas, je pense.
D'accord.
Moi, je voudrais dire, la souveraineté de Dieu, c'est... Aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un, une sœur qui m'a envoyé un message, une méditation. Dieu fait ce qu'il veut. Quand il veut, ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi ou parce qu'il veut s'amuser, mais voilà, comme il sait, voilà, parce que nous, on peut se dire que non, bah, c'est bien de prendre le chemin droit, mais lui sait que c'est gauche. Et nous, avec nos yeux, on voit bien que c'est le chemin droit qui est fleuri, qui est voilà. Mais lui, il trouve que c'est gauche. Donc, il est souverain, voilà. Il fait ce qu'il veut, mais parce qu'il est intelligent, plus intelligent que nous.
Donc, toi, la raison que tu donnes, c'est parce qu'il est intelligent. Voilà. Moi, j'ai la question, c'est pourquoi il est, pourquoi le Seigneur est souverain, ou comment expliquer la souveraineté de Dieu? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Voilà.
Moi, je pense aussi que dans sa souveraineté, comme il est Dieu, il sait déjà tout, il connaît tout, il est au contrôle de toutes choses. Il tient la vie de chaque homme dans sa main, donc il est au contrôle de tout, quoi. Et comme la Bible dit aussi quelque part, il n'a ni conseiller, donc il est le créateur de toute chose, de toute créature. Il dirige tout, quoi. Donc en fait, au-dessus de lui, il n'y a personne. Donc...
Je voulais...
La jeune veuve après qui va intervenir.
Oui, je voulais l'expliquer par rapport un peu à la situation. Donc, la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu décide, c'est lui qui a le dernier mot. Il décide ce qu'il veut faire, il le fait. La situation, par exemple, de cet homme, il dit bien quand il est parti en enfer, il y a une voix qui lui a dit, c'est pas ton temps. C'est pas encore ton heure. Donc on voit bien que Dieu est souverain sur cette situation. Il a décidé. Il a décidé que la personne qui est en enfer sorte, il est sorti. Donc moi, c'est sur ce point-là aussi que je vois que...
Oui, mais comment comprendre ça? Parce que là, un païen va te dire, oui, mais ils étaient deux à mourir. Pourquoi l'a sauvé lui et pas l'autre? Il y a eu quand même des morceaux de réponse quelque part.
Mais c'est
important
parce que,
pour nous de...
Enfin, pour moi, d'un point de vue biblique, c'est parce que Dieu fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut, comme il l'a dit dans sa parole.
Après, oui, là, tu nous dis tout simplement, dans un autre terme, Dieu est souverain. Tu nous dis la même chose. Là, c'est comme si tu dis Dieu est souverain.
Moi, je crois que... Enfin, il y a un passage également, parfois, que je médite pour toujours m'encourager dans cette acceptation de la souveraineté de Dieu. Dans la Bible, parfois des prophètes parlent de Dieu. Et parfois lui-même, il parle de lui en utilisant le thème « je ». Et dans Ésaïe 45, à partir du verset 7, il dit « Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Donc aujourd'hui, l'homme, même quand l'homme se définit, il se sent limité par la mort. Mais quelqu'un qui arrive à parler sans se donner des limites, moi, je arrive à voir dans cette personne-là, en plus de l'autorité, une certaine forme également de souveraineté. Parce qu'il dit, moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et quand on remonte au verset 6, il dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, voilà, je dis que dans lui-même, sa définition, il affirme son autorité, sa souveraineté. Et nous, les hommes, on ne le fait que constater, en fait.
D'accord. Encore une ou deux interventions et puis...
Bah, je dirais que c'est aussi par amour. Ça peut se définir aussi par amour, tout simplement.
J'entends pas ce que tu veux dire.
Je dis... Oui, c'est aussi par amour.
Par amour.
Oui, s'il a sauvé... Oui,
tu l'expliques.
Par c'est amour. Parce que s'il a sauvé...
Je comprends pas ce que tu dis.
S'il a sauvé Matthieu, je crois, alors qu'il était déjà en enfer, c'est qu'il aimait, tout simplement.
Oui, mais il aimait, il l'a sauvé, c'est ça?
Bah oui, il l'a sauvé.
Maintenant, est-ce qu'il aimait pas l'autre qui est mort? Parce qu'ils sont deux. Deux ont été touchés, les deux sont morts, mais il ressuscite un, et l'autre, toi tu dis parce qu'il l'aimait. Donc on va te poser... Donc ça veut dire qu'il aimait pas l'autre. Tu sais pas. Vas-y, Sojourner.
Bon, moi, je peux dire que Dieu est le maître de temps et de circonstances.
Donc, il est souverain.
Oui.
Voilà. Donc, on dit la même chose. Mais... On est d'accord.
Moi, je pense comme Dieu est, c'est notre créateur, donc il connaît le cœur de chaque être qu'il a créé. Et je pense que celui-là qui est mort, les deux, donc le premier qui est mort, je pense qu'il a déjà eu l'opportunité. Je pense que le Seigneur...
on ne parle pas dans « je le pense ». On parle avec certitude.
Je suis certaine que Dieu a permis qu'il entende parler de lui et il a refusé. Donc Dieu savait que de toute façon... qu'il allait aller en enfer, comme il est omniprésent, omnipotent, il connaît sa création, et il savait que l'autre allait accepter de marcher avec lui. Donc D'accord. c'est ça sa souveraineté, il aime tous les hommes.
D'accord, donc le frère Denis, après on clôture avec la sœur Tataphélie.
Moi je dirais simplement que Dieu n'a pas de compte à nous rendre, il fait ce qu'il veut, parce qu'il est Dieu.
D'accord.
Ben, en fait, moi je voulais juste dire que c'est vrai que Dieu c'est le chef suprême déjà. C'est lui le créateur, donc c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui peut aussi, t'as décidé de notre jour de mort, mais sauf que là où on ira, ça dépend de nous, si c'est le paradis ou si c'est l'enfer. On doit choisir pendant qu'on est sur terre.
D'accord. Donc, bon, j'avais dit qu'on clôturait avec la sœur Philly. Voilà. Mais dans tous, beaucoup de choses qui ont été dites, il y a des choses, bien sûr, qui sont vraies. Moi, je résume ça avec un verset dans le psaume 50, verset 12. « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Alors, aujourd'hui, tu as acheté ta maison, tu as meublé ta maison. Et un jour, un voisin débarque pour te dire « Non, mais la télé, je trouve que tu dois la mettre comme ça. Le liquide vaisselle que tu utilises, c'est pas bon. » ta maison, non, c'est mieux que tu fasses chauffer, cheminer avec du bois plutôt que. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu quittes chez toi pour venir chez moi pour me dire, je dois mettre la télé comme ça, je dois élever mes enfants comme ça, comme ça. Là, je pense que personne ne va accepter ça. Parce que tu as acheté ta maison, ce n'est pas ton voisin qui te l'a payé. Alors, si on part du principe qu'au commencement, la terre était vide, qu'il n'y avait rien, et Dieu a créé toutes choses. C'est pourquoi il dit que le monde et tout ce qu'il renferme m'appartient. Il dit à Job, lorsque j'ai créé toutes choses, qui était là? Voilà. Qui était le conseiller de Dieu lorsqu'il a créé toutes les choses? Lui seul était là. Donc, puisque le monde et tout ce que le monde renferme est à lui, il n'a pas de compte à rendre. De la même manière que tu n'as pas de compte à rendre à ton voisin dans la façon dont tu utilises ta télévision ou quel liquide vaisselle tu utilises. Tu n'as pas de compte à lui rendre. Voilà, donc de cette manière-là, Dieu n'a de compte à rendre à personne puisque nous sommes tous sa création. Nous lui appartenons, que nous le voulions ou pas. Maintenant, le Seigneur, c'est vrai, nous propose de marcher avec lui d'un commun accord en acceptant Jésus-Christ, de faire de nous ses enfants, de faire de nous des ouvriers, de faire de nous ses serviteurs, de faire de nous des co-héritiers, voilà, de faire de nous des ouvriers avec lui dans la moisson. Ça, il le fait par amour, librement. Mais ça n'empêche pas que nous lui appartenons. Et pour preuve, c'est que nous mourrons un jour. Ça montre que la vie ne nous appartient pas, puisqu'on n'a pas la possibilité de la retenir. Voilà, Dieu est souverain, il n'a pas de compte à rendre. Pourquoi? Puisque c'est lui qui a créé toutes choses, c'est tout. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se marchande. C'est qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas. C'est comme ça.
Oui, il y a un point que la dame a soulevé aussi, que je trouve très important. Elle dit, il y a des moments où elle s'est dit, mais je ne m'étais pas engagée pour ça. Et après, elle s'est rappelée des promesses qu'elle avait faites. Donc c'est comme nous aussi aujourd'hui, parfois nous nous engageons dans des entreprises, dans le mariage, dans le truc, et subitement, quand les difficultés arrivent, nous oublions qu'autrefois, on avait dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a montré, Dieu cela, et nous sommes prêts à abandonner. Alors que cette dame l'a dit, mais je ne m'étais pas engagé pour ça, parce qu'elle voyait certainement le mariage, elle s'était engagée, mais pas avec quelqu'un qui va être handicapé. Mais elle s'est souvenue qu'elle avait fait la promesse, quelle que soit la situation, je resterai avec toi. Donc nous aussi, lorsque nous acceptons le chemin que Dieu a tracé pour nous, quelles que soient les difficultés, les obstacles, souvenons-nous qu'on l'avait confessé, que c'est Dieu qui nous a envoyés, c'est Dieu qui a fait ceci.
Il y a beaucoup de sourires là, donc il y a beaucoup qui se reconnaissent. Ah oui, Et ça, c'est vraiment l'ingratitude des humains qui veulent à un moment donné rejeter la faute sur Dieu. Donc ça, c'est vrai. Quand on a fait des choix et qu'on avait prié, « Seigneur, si tu me donnes ceci, moi je ferai ça. » Elle voulait que son mari soit guéri, qu'il revienne. Elle lui a dit, « Tout ce que je demande, c'est qu'il ait son cœur, qu'il ait son même caractère, qu'il ait ça. » Mais il est venu et avec un handicap, ça devient difficile dans la vie de chaque jour de s'occuper de quelqu'un qui n'a pas toutes ses capacités. Et là, elle commençait à craquer. Ça devenait trop pour elle. Et mais elle s'est souvenue que c'était quelque chose qu'elle avait demandé au Seigneur. Et Dieu lui a accordé ça. Donc c'est la raison pour laquelle on voit des fois dans la Bible des gens aveugles. Le Seigneur dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Ah, mais les gens se disent, « Mais il est aveugle. Comment tu peux lui demander que veux-tu que tu fasses ? Il veut que tu lui donnes la vue. » Ah oui, mais là, tu vis parce que tu mendies. Les gens s'occupent de toi, on fait tout ça. Mais quand tu vas trouver la vue, il faudra aller travailler. On ne va plus s'occuper de toi. Est-ce que tu es prêt à ça? Parce que même des gens qui reçoivent des bénédictions du Seigneur, après commencent à murmurer contre Dieu. « Seigneur, si tu savais que ma femme allait être comme ça, il ne fallait pas me laisser faire. Si tu savais que le mari allait être comme ça, il ne fallait pas laisser. » Mais au moment où dans le bureau, le pasteur te disait « Attends encore un peu, patiente encore un peu. » « Oh non, je suis sûr, je suis convaincu. Dieu va le transformer pendant le mariage. Je suis sûr. » C'est ce qu'on entend, bien-aimé. Mais après, c'est des pleurs. Oh Dieu, si tu savais, Seigneur, comme tu vois tout, mais pourquoi tu m'as laissé me diriger dans cette direction-là? Ah non, Dieu t'a laissé le choix. Dieu t'a laissé le choix, tu as insisté quelquefois, tu as même jeûné. Tu as même jeûné quelquefois. Donc Dieu t'a exaucé maintenant. Le problème, on trouve, c'est Dieu qui m'a abandonné. Ah non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Donc tu avais dit des choses de ta bouche, tu t'es lié par ce que tu as dit. Donc maintenant, il faut assumer aussi. Il faut assumer, surtout sur la question du mariage, où tu signes, tu sais que c'est jusqu'à la mort. Voilà. Et là, il n'y a pas de soutien du frère, du pasteur qui va te dire, oui, tu peux divorcer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas divorcer. La Bible ne veut pas. Amen. Il faut dire amen. C'est la Bible qui le dit. Donc, effectivement, le point que le diacre a soulevé, c'est un point qui est très, très important. On va lire le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 4.
Question ?
Vas-y.
Je voulais savoir, est-ce qu'on peut parler de souveraineté sans la justice ? Parce que Dieu est souverain, mais il a attendu que Jésus meure à la croix pour nous déclarer juste. Il pouvait déclarer que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Dire à Satan, je le déclare juste, sans même de sacrifice. Non. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, il y a des péchés qu'il n'a pas condamnés parce qu'il n'y avait pas encore la loi.
Non, il fallait des choses concrètes. Il fallait un sacrifice visible. Il fallait que le témoignage soit vu de tous les hommes. Donc il fallait un témoignage. Puisque sinon, dans ta logique, on reviendra encore au début, puisque Dieu est souverain, il aurait pu dire aussi à Satan, je ne permets pas d'aller tenter Adam et Ève. Non. Dieu a décidé que ça se passe comme ça. Depuis le temps d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, il avait déjà préparé le sacrifice à venir. Pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il est souverain. Voilà, il a décidé que c'est par ce moyen-là que les choses devaient se faire. Voilà, donc on ne peut pas aujourd'hui dire, mais si Dieu savait, parce que là on revient encore à la création, si Dieu savait pourquoi il a créé l'homme.
Bon, non, ça, ma question est, est-ce qu'on peut parler aussi de souveraineté sans la justice?
Non, la souveraineté de Dieu va avec la justice. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Dieu, on ne peut pas le dissocier de ce qu'il est. Or, Dieu lui-même, il est amour. Dieu lui-même, il est juste. Dieu lui-même, il est miséricordieux. Donc, quand on parle de Dieu, tout ça fait partie de lui. On ne peut pas enlever un attribut et dire c'est Dieu. Non, Dieu, c'est tout cet ensemble-là. Donc, forcément, que lorsqu'on parle de souveraineté de Dieu, on parle forcément de justice parce qu'il est bon. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, au verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans une multitude des paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé, c'est une advertance, pourquoi Dieu s'irriterait-il des paroles et détruire l'ouvrage de tes mains. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'était surtout jusqu'au verset 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc c'est ça, avant de nous engager dans certaines choses, prenons le temps. Ne laissons pas le monde dicter notre calendrier. Le monde qui te dit tu es déjà en retard, regarde l'âge que tu as. Les autres ont eu, toi tu n'as pas eu. Regarde, tu es en retard, regarde l'âge que tu as. Les autres travaillent, toi tu ne travailles pas. Ça c'est la pression du monde qui nous pousse, mélangée avec la pression de la chair et puis quelquefois la convoitise, qui nous pousse à prendre des orientations pour lesquelles on se dit après, mais Seigneur, si tu savais que ça allait mal se passer, pourquoi tu m'as laissé aller là-bas? Non, le Seigneur nous a donné l'intelligence pour connaître ce qui est véritable. Nous avons le Saint-Esprit. C'est à nous de prendre le temps d'accepter d'être patient, d'ouvrir les oreilles lorsque Dieu parle par les uns et par les autres et de ne pas s'empresser. Dans tous les cas, ce qui est de Dieu finira toujours par s'imposer. Donc, à la limite, c'est même mieux de traîner un peu de pied pour obliger Dieu à te faire entrer dans l'affaire plutôt que de te profiter, de chercher le sens du vent pour dire « c'est le vent qui m'a poussé ». Non. Donc, c'est important de savoir ce qu'on dit, de savoir ce que l'on fait parce que quelque part, ça nous lie et... Les choses, des fois, sont irréversibles. Mais des fois, c'est pour notre peine et notre tristesse. Voilà. Donc, sache que si tu es marié, même si tu pleures aujourd'hui, Dieu ne va pas changer le verset de la Bible pour te permettre de divorcer. C'est comme ça. Amen. Bon, on va s'arrêter là. À part s'il y a des interventions par rapport... Voilà, donc on retient un verset, Exode 33, 19. Je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, dit le Seigneur. Voilà, il fait comme il veut, acceptant tout simplement la souveraineté de Dieu. Et on sait que sa souveraineté est liée à lui-même, c'est-à-dire Dieu est amour. Donc forcément, dans sa souveraineté, la notion d'amour ne peut pas être effacée. Donc dans toutes les décisions que le Seigneur prend, il les fait aussi avec amour. Voilà, lui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin et comme il connaît l'avenir, voilà, faisons-lui confiance et laissons-le vraiment nous conduire et nous diriger, même si dans un regard humain, quelquefois, le chemin qu'on emprunte semble difficile, la cible semble inaccessible. Rappelons tout simplement que c'est le Seigneur qui nous conduit et que, voilà, il nous conduira dans les verts pâturages, il ne peut pas nous conduire à la mort. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Ce soir encore, nous te bénissons. Seigneur, nous réalisons à travers tous ces témoignages combien tu es bon, Seigneur. Nous réalisons à travers ces témoignages combien nous-mêmes, nous ne méritions pas ta grâce, combien nous étions si loin de toi. Tu nous rappelles, Seigneur de gloire, d'où nous sommes venus et ce que nous étions autrefois. Et nous réalisons, Seigneur de gloire, que véritablement tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as sauvés, nous étions vraiment perdus. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli dans la vie des uns et des autres. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, à observer, à avoir le discernement, Seigneur, afin d'être enseigné aussi à travers tout ce que tu fais dans la vie des uns et des autres. Dans le nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur de gloire, à ne pas mépriser tes avertissements. Car c'est vrai, Seigneur, que bien des fois, nous nous retrouvons dans des difficultés, dans des complications, uniquement parce que nous avons fait des choix par convoitise, nous avons fait des choix par rébellion, et aujourd'hui, quelquefois, nous en pleurons, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes détournés de toi, Seigneur, pour satisfaire notre chair. Pardonne-nous, Seigneur, car comme nous l'avons lu dans le psaume 107, tous ceux, Seigneur, de gloire même qui s'étaient rebellés contre toi, lorsqu'ils ont crié à toi, Seigneur, tu les as délivrés de leur détresse. Alors, Seigneur, puisque tu es juste et parce que tu ne changes pas et qu'en toi il n'y a point de favoritisme, Seigneur, souviens-toi de nous aussi, à cause de Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur. Ne nous impute pas, Seigneur Dieu de gloire, toutes ces fautes, Seigneur, que nous avons commises, Seigneur. Mais pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, car le sang de l'agneau parle encore jusqu'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour ta fidélité. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, à ne pas mépriser ta parole, Seigneur. À considérer, Seigneur de gloire, que ce que tu nous donnes aujourd'hui, tôt ou tard, Seigneur Dieu de gloire, on en aura besoin. Nous ne voulons plus mépriser ta parole, Seigneur. Nous ne voulons plus mépriser la façon dont tu te révèles à nous, dont tu nous parles, Seigneur. Apprends-nous à être attentifs afin de ne pas passer à côté, Seigneur Dieu de gloire, de ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur Dieu de gloire, afin que tout ce que nous avons reçu de toi aujourd'hui, Seigneur, demeure gravé dans nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, afin qu'au temps convenable, le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que tu nous as enseigné, afin de tenir ferme dans l'épreuve, de tenir ferme, Seigneur Dieu de gloire, devant la tentation, de tenir ferme, Seigneur, devant toutes les ruses du diable. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.